This is the sound of an express service from Mercedes-Benz Cars. Two of our expert technicians working exclusively on your Mercedes-Benz while you sit back and enjoy a complimentary coffee on us. All it takes is as little as an hour of your day. The whole process is quick, easy, and hassle-free. Get an instant quote online and book a time that suits you. Simply search my service and book yours today. And before you know it, you'll be on your way. Subject to the service required at participating retailers only. Terms and conditions apply.
Vous écoutez RMC.
Avec nous ce soir, Simone Rovera, qui va nous parler de week-end italien et de la victoire de la Lazio face à la Juve. Salut Simone.
Ciao, buonasera, bonsoir.
Tout va bien.
Salut Simone.
Tout va bien.
Une Bundesliga pleine de surprises, on en parlera avec toi, Paulo Breitner. Salut Paulo.
Bonsoir mon cher François, bonsoir tout le monde. Bonsoir,
salut Paulo.
Et puis l'Espagne, bien sûr, le Real, Griezmann, puis même peut-être des infos sur Cavani. Fred Hermel est avec nous. Ah. Salut Fred.
Hola chicos.
Comment Salut. Ça va?
Salut Fred. Ah bah ça va très très bien. Je m'entends. Alors c'est un petit message pour la technique. Bah, je message. M'entends avec un retour dans l'oreille.
Très bien.
Voilà.
Merci
voilà,
pour voilà. Ce petit
c'est compliqué
message
de te parler. Mais, oui, mais c'est un détail technique.
C'est important.
Mais je ne vais pas pouvoir parler.
D'accord. Ah. Bah écoute, on va essayer de régler ce problème. Julien voilà. Laurence nous rejoindra dans un instant également pour parler
du resto
de l'Angleterre et notamment de Liverpool, champion du monde des clubs, Liverpool, et puis de Lampard qui a battu Mourinho, du retour de Paul Pogba également. On va commencer, si vous voulez bien, avec l'Italie, Simone, parce qu'on a envie de revenir sur la défaite de la Juve, battue 3-1 par la Lazio lors de la Supercoupe d'Italie, une Supercoupe qui se jouait à Riyad, en Arabie Saoudite. Est-ce que ça a quand même eu un impact en Italie, alors que ce n'est pas le titre le plus prestigieux, la Supercoupe d'Italie là-bas? Est-ce que pour les supporters de la Juve, c'est un coup dur?
Bah oui, ça a été un énorme impact, surtout parce que la défaite 3-1, c'est vraiment, on aurait presque pu dire que c'est un copier-coller de ce qu'on a vu en championnat il y a quelques semaines, soit pour le résultat 3-1, soit pour la façon où la Lazio a bien utilisé, bien maîtrisé tous les points faibles de la Juve, et surtout il a bien utilisé ses points forts, c'est-à-dire cette verticalité, la capacité d'accélérer quand il y a les ballons et d'utiliser les points faibles de la Juve, qui à Riyad ont été bien évidents. L'effet que la Juve a terminé encore une fois 10 face à la Lazio, même si ça, les cartons rouges arrivaient tout à la dernière seconde du match. Mais il y a vraiment des scénarios très similaires. La chose plus étonnante pour moi, c'est que la Juve, encore une fois, avait choisi, Maurizio Sarri, de mettre ses tridents qui fait rêver les supporters et pour lesquels il a été parfois un peu accusé d'avoir un peu peur de l'utiliser, c'est-à-dire Dybala, Higuain et Ronaldo, et c'est pour moi probablement la clé de sa défaite. Défendre avec trois attaquants comme ça face à l'Udinese, c'est simple, et la Juve peut donner tous les spectacles veut. Face à la Lazio, qui est une équipe qui joue bien, qui est solide, qui est compacte, où les deux attaquants sont les premiers défenseurs, parce qu'Immobile Correa, au-delà de ce qu'ils font devant, font un travail remarquable derrière, c'est mettre en danger et prendre un gros risque, et le risque n'a pas payé.
C'est marrant parce qu'au PSG, on avait les mêmes débats, mais ça fonctionne avec quatre attaquants. Hein.
Ouais.
Mbappé, Icardi, Neymar, Di Maria. Et là, tu nous dis qu'avec trois, c'est pas possible de jouer.
D'une manière plus générale, Simone, quel premier bilan peut tirer
qui ont dépassé la trentaine et
qui font pas les efforts.
C'est différent.
Simone, d'une manière générale, quel bilan on peut tirer des six premiers mois de Sarri à la Juve?
Bah, c'est plutôt négatif, parce que au-delà du fait que le classement dit que la Juve est première avec l'Inter, mais elle a beaucoup moins de points de l'année dernière, 7 points en moins, si je ne me trompe pas, on a vite compris que Sarri n'a pas encore donné une identité des jeux à cette Juve. Il y a eu certaines phases des jeux intéressantes, surtout face à des grands adversaires, les plus grands adversaires, Naples en début de saison, l'Atletico, l'Inter. On a vu des choses, on a vu une rapidité des jeux, une possession brillante, on a vu des choses sûrement avec une ADN, une claire empreinte Sarri. Mais pour le reste, la Juve est trop fragile derrière, elle casse beaucoup de buts. La Juve n'est pas solide leader du classement, a perdu les premiers titres de la saison. Et dans les dernières semaines, on a eu l'impression vraiment que seulement les retours en forme de Cristiano avaient caché un peu ces toujours les mêmes problèmes. Ouais. Donc, il y a un parti, on peut dire, politique presque de nostalgique de Allegri qui revient un peu en force ces derniers jours. Mais au-delà de l'idée de Sarri versus Allegri, qui c'est quand même un débat intéressant qu'on a déjà fait dans l'after entre les jeux et les résultats, je trouve que à cette Juve manque quelque chose. Les mercato a été un pari très très important entre les joueurs arrivés libres comme Rabiot et Ramsey, les 70 millions sur De Ligt qui fait voir de bonnes choses, mais depuis 4 mois
encore ça. Match,
bah, il n'était pas titulaire,
match, il est titulaire.
Il n'y en a aucun qui joue surtout.
Donc il y a vraiment il y a aucune qui joue, c'est l'équipe de l'année dernière. Donc il y a vraiment beaucoup de questions qu'on se pose en Italie sur ce que ça arrive à apporter. Les joueurs le défendent en disant on verra en 2020 la vraie Juve de Sarri, mais déjà perdre n'aide jamais et la tête qui fait Cristiano quand reçoit sa médaille d'argent.
Ouais, il enlève la médaille. Et Adrien Rabiot qui est resté sur le banc. Hein. C'était Matuidi qui était titulaire côté Juve. C'est un problème pour la suite de la saison, grave pour lui.
Qui apparemment n'est pas très content, mais il venait des 4 matchs titulaires. Il avait bien, je pense qu'il avait bien saisi sa chance parce qu'il avait été plutôt bon dans les matchs face à Leverkusen, mais surtout face à la Sampdoria. On avait vu un Rabiot, surtout en deuxième mi-temps, meilleur. C'était pour moi les meilleurs matchs de Rabiot cette saison. Il n'a pas joué beaucoup, il est à une dizaine de matchs, pas plus. Donc c'est vrai qu'on pouvait s'attendre beaucoup plus.
Non, Simone, tu ne pouvais pas t'attendre beaucoup plus de la part d'un joueur qui a passé quasiment toute la saison sans jouer. C'était illusoire de penser qu'il reprendrait le rythme dans un championnat qui est quand même exigeant, dans un club qui est aussi exigeant et avec un coach qui demande autant d'intensité physique, qu'il arriverait à s'imposer sur les 6 premiers mois. Pour moi, c'est normal que cette situation, Adrien.
On aurait pu imaginer que Sarri l'aurait pu aider à enchaîner plus tôt.
Ouais, mais il n'a pas joué pendant un an. Hein.
Au-delà de ça, ce qui est gênant, je trouve, avec le caractère de Rabiot, c'est comme tu l'as dit, il a enchaîné 4 titularisations. Ça s'est bien passé. Eh ben écoute, t'es sur le banc pour une finale de coupe. Bah écoute, tu baisses la tête, t'attends que ça passe et puis tu bosses et puis tu essaies de revenir dans le 11 sur le match d'après. Dès qu'il y a quelque chose, un grain de sable qui va pas chez lui, on a l'impression que ça baisse les bras, qu'il est pas content, qu'il fait le bougon, ainsi de suite.
Il a vraiment fait la tête là ?
Non, bah il a pas fait la tête, mais c'est une situation un peu.
Il s'attendait global, à plus jouer.
Il s'attendait peut-être sûrement d'avoir un peu plus de temps de jeu en début de saison. Il devait être titulaire sur les premiers matchs. On découvre les jours du match qu'il joue pas. Il avait fait une belle pré-saison. Sarri l'a même fait comprendre que c'était un problème presque plus mental que physique à un certain moment parce que il avait découvert d'être un peu en retard de préparation, d'avoir pas le même niveau que les autres et ça l'avait un peu gêné au niveau mental. Donc on n'a pas bien compris quelle était la vraie attente qu'il y avait Sarri sur ses joueurs. Et attention, deuxième partie de saison, ça va commencer. Bettencourt a pris un carton rouge en Supercoupe, il a pris 3 matchs de suspension, qui dire est blessé jusqu'à mars. Donc, il doit repartir encore en voie avec Rabiot sur les probablement les 3 premiers matchs de la du 2020. Et c'est une autre occasion pour lui d'enchaîner.
Moi, je me fais pas de soucis pour Adrien.
Qu'est-ce qui passe? Il y a eu plein de rumeurs de départ, de prêts, de clubs qui sont positionnés sur lui. Moi, pour ce que sont mes informations, la Juve aujourd'hui n'a aucune intention.
Mais oui.
Et tu vas voir qu'il va s'imposer. Emre Can, je crois qu'il était dans le viseur de Leonardo aussi.
Emre Can, c'est un joueur qui était exclu de la liste Champions.
Pour la Ligue des Champions.
Oui. De la Juve, et à partir de ce jour-là, je peux dire que c'est presque plus un joueur de football. Quand il rentre sur le terrain, il fait rien. C'est agaçant. C'est pas un joueur de football, ça. C'est quelqu'un qui marche sur
Vous verrez qu'Adrien, il s'imposera en deuxième partie de saison. C'est sûr.
Bon, Simone, on va donc très rapidement, la Lazio quand même qui confirme sa bonne saison. Ils sont troisième quand même de Serie A. Et puis cette victoire, c'est un peu la cerise sur le gâteau avec Simone Inzaghi qui remporte sa deuxième Supercoupe. Je voulais quand même qu'on s'attarde un peu plus sur le cas de l'AC Milan. battu donc hier lors des 17e journée de Serie A, 5-0 par l'Atalanta Bergame.
Ah ouais.
Ça doit faire peur à Fred, hein, puisque l'Atalanta est adversaire de Valence en 8e de finale de Ligue des Champions. Je sais pas si tu trembles, hein, Fred Hermel. Mais en tout cas, du côté de l'AC Milan, on tremble quand on voit cette équipe. Hein, c'est une catastrophe.
Bah alors oui, après aujourd'hui en Italie il y a une guerre qui pour moi c'est presque médiatique, politique, que ça concerne l'AC Milan, parce que oui c'est vrai que Milan en a pris 5 face à l'Atalanta. On a passé il y a les dernières semaines à dire qu'est-ce que c'est beau l'Atalanta, la surprise de la Ligue des Champions. C'est pas un club en bois, c'est un club qui est dans les 16 meilleures équipes d'Europe. La saison dernière, l'Atalanta avait mis 3-0 en coupe à la Juve avec Cristiano et l'avait éliminé. Elle avait mis 4 ans à l'Inter en championnat. C'est une équipe qui est capable de faire des exploits extraordinaires face à des équipes plus fort, imagine, face à une équipe qui est plus faible, parce qu'aujourd'hui Milan est plus faible.
Bah oui.
Ce qui a créé la grosse polémique en Italie, au-delà de la défaite, il y a eu deux épisodes. Les premiers, c'est un peu people, réseaux sociaux, le fait qu'hier soir Rafael Leao était en boîte de nuit à boire, à fumer, c'est selon une vidéo qui a été diffusée sur les réseaux sociaux, et ça fait énerver énormément les supporters. Et l'autre, c'est des mots très très forts de Boban, qui a dit, en bref, sur le mercato des janvier, on va voir ce que la propriété nous permet de faire.
Ouais,
donc, au-delà du résultat sportif qui est catastrophique, Milan a déjà changé un entraîneur cette année, elle est passée de Gianpaolo. Pour moi, les plus grandes erreurs qu'a fait Milan cette année n'est pas le mercato, c'est le choix de l'entraîneur. Mmh. À Pioli, qui est quelqu'un un normalisateur, on peut dire, c'est quelqu'un qui prend les choses prend les équipes quand les choses vont mal cette dernière année et plutôt fait des bons résultats.
Ouais.
Mais les gros problèmes, c'est que
ils vont prendre Zlatan ou pas,
cassure évidente. Dans les alors c'était il y a eu un c'est vraiment une drague réciproque, mais il y a des moments où on dirait que Zlatan est intéressé en Milan et Milan n'est pas très chaud, et là c'est l'inverse, Milan est très intéressé et Zlatan n'est pas très chaud. Quand les choses vont un peu mieux, Milan dit bah peut-être on n'a pas besoin. Quand les choses vont plus mal, Milan, les dirigeants se disent bah,
mais
peut-être
Zlatan il a 36 ans maintenant. Simone, franchement, quand tu regardes la composition d'équipe du Milan, quand tu regardes les joueurs qui sont sur le banc, c'est quand même censé être une bonne équipe, quoi. Quand tu regardes juste les individualités,
c'est pas horrible.
Ah, des bons joueurs dans cette équipe, hein.
Aujourd'hui, il y avait une critique énorme sur la Gazzetta dello Sport sur les jeunes, en disant qu'il y a certains jeunes qui n'ont pas les niveaux. Les problèmes, que pour moi, les joueurs qui n'ont pas vraiment les niveaux, ce sont pas les jeunes, c'est des jeunes qui sont au Milan depuis des années, comme Suso, comme Kessié. C'est pas les mercato qui a fait cet été les dirigeants de Milan qui ont parié sur certains joueurs comme Duarte, que peut-être c'est un gros erreur de casting, mais sur la qualité de Bennacer, pour moi, on peut pas discuter. Sur le potentiel de Léa,
il est bon Bennacer là.
Il fait voir de bonnes choses, mais les problèmes, c'est que de l'autre côté, si tu fais pas jouer Bennacer, tu fais jouer Bilia, et Bilia aujourd'hui c'est
pas possible. Il est cuit.
Dans aucune équipe de top niveau.
Simone,
on va
devoir te libérer bientôt, mais juste un dernier mot, puisqu'il y a pas mal de gens sur le hashtag AMC Live qui nous posent la question, puisque c'est sorti dans un journal italien. Goulam à l'OM d'après la Repubblica. Est-ce que tu as entendu parler de cette info?
Est-ce que c'est fiable, Goulam, déjà,
le joueur de Naples?
Non, c'est fiable, mais pour ce qui sont mes infos, Goulam aujourd'hui c'est un joueur qui est très 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 loin du niveau qu'il avait il y a 2 ans. Certaines personnes à Naples me disent qu'il s'est vraiment jamais remis de sa blessure au ligament croisé. On se rappelle, il fait les croisés il y a 2 ans.
Ouais.
Après, il s'est fait la rotule parce qu'il reprend trop tôt. Du côté du joueur, ils disent non, c'est pas parce qu'il reprend trop tôt, mais du côté du club, mais on m'a dit que quand même, il a accéléré trop sa récupération et ça l'a gêné. Et aujourd'hui, c'est difficile de faire confiance à ces joueurs pour Naples et pour Ancelotti, parce qu'il avait toujours des soucis physiques. Ah. Il n'arrivait pas à être au top.
Attention, on se trouve qu'à l'arnaque Troutman numéro 2, là, dans ce cas-là.
Voilà, merci beaucoup.
Sur la qualité du joueur, c'est qu'il avait fait
quand même. On se souvient,
mais Simon, un très bon joueur. Pareil, Troutman, il avait été excellent à la Roma, mais il est arrivé à Marseille, c'était un bidon maintenant.
Merci beaucoup, Simone. Merci, merci. À très bientôt.
Joyeux Noël.
Bah oui, joyeux Noël à toi. Bonne fête à toi. Exceptionnellement, on te libère maintenant. On retrouve dans un instant la suite de nos drôles de dames avec Fred Hermel notamment, qui va nous parler de l'Espagne et peut-être nous en dire un peu plus sur l'hypothèse Cavani du côté de l'Atlético de Madrid. A tout de suite sur RMC.
RMC. L'After Foot. François Pinet.
22h48, ravi de vous retrouver pour l'after jusqu'à minuit. Jonathan McCarty, Damien Perrinel et nos drôles de dames qui sont toujours là. Fred Hermel en Espagne, Julien Laurence et Paolo Breitner. Dans un instant, on parlera de l'Angleterre.
Paolo Breitner, pardon.
Excuse-moi.
Paolo, c'est pour les sudistes.
Excuse-moi, je pensais que tu étais du sud de l'Allemagne, tu vois.
Non,
du tout.
Ah bah non, surtout pas.
Donc Paolo Breitner qui va nous parler dans un instant de la Bundesliga. Ouais. Parce qu'il se passe des choses. Au moins en Bundesliga, il y a du suspense. C'est pas le cas en Ligue 1.
Arrête. Bah, Ligue 1, c'est très bien cette année.
Pour la première place.
Non, mais c'est très spécial parce qu'on est peut-être tout simplement en train de revenir à une situation normale, entre guillemets. Alors, parce que je dis normal.
Ça sera à toi dans un instant. Hein, donc commence pas à développer. Hein.
Ah, pardon.
Ça sera à toi à partir de 23h.
Paolo, tu vois, c'est dans ta culture. Il faut toujours que tu t'étendes.
C'est ma faute. Et c'est prouvé par l'histoire en plus, Fred, tout ça.
Autant pour moi.
Non, il n'y a pas de problème.
Les propos de Fred sont d'une grande justesse.
Mais Paolo, tu peux intervenir quand tu veux, bien sûr. On va parler d'Edinson Cavani avec Fred Hermel. Fred, parce que avant de revenir sur la 18e journée de Liga, sur RMC, on en a parlé dans l'after. Accord trouvé, d'après nos informations, que l'on confirme, en tout cas on confirme les infos de Sky Sport Italia, entre Cavani et l'Atlético de Madrid pour un départ. Et d'après nos informations, le PSG serait d'accord pour le libérer dès cet hiver. Est-ce que toi, tu as les mêmes infos du côté de l'Espagne ?
Alors, du côté de l'Espagne, déjà, la première info qui était venue d'Italie n'a pas surpris, pour une raison très simple, c'est qu'on sait très bien que Cavani est un joueur Simeone compatible. C'est un joueur qui a toujours intéressé l'entraîneur argentin, et il fut même une époque où c'était Diego Godin qui était chargé de faire le contact, de faire le rôle de recruteur quasiment, quoi. Voilà, donc souvent Simeone a aussi parlé directement avec Cavani, même avant de venir au Paris Saint-Germain, on parlait déjà de Cavani à l'Atlético. Donc c'est vraiment un vieux serpent de mer. Oui. Après, l'Atlético a un problème, c'est que avec la DNCG espagnole, il peut pas sortir du rang, et que il faut absolument que l'Atlético vende pour pouvoir acheter. C'est ça aussi.
Il est en fin de contrat à la fin de la saison.
Justement.
Mais le PSG va demander de l'argent quand même.
Ouais, mais
pour 6 mois, c'est ce qu'on disait. On ne sait pas combien ça peut être, mais ça ne peut pas dépasser les 10 millions d'euros, a priori.
Et après, il y a la question du salaire aussi à assurer.
Oui, ça.
Parce que c'est un gros salaire, Cavani, en fait. Et à l'Atlético, il y a déjà de gros salaires, en commençant par l'entraîneur qui touche 21 millions nets, c'est-à-dire 42 millions bruts. Simeone, c'est quand même l'entraîneur.
Fred, à titre d'info, il touche combien? Ça touche combien, par exemple, hein, Diego Costa?
Ah, mais Diego Costa, il a 6-7, hein, net. Hein.
Bah, c'est moins que Cavani.
Ouais. Hein. Bah oui, c'est pour ça. Il va falloir que l'Atlético se sépare de quelqu'un.
Ouais. Toi, tu signes 3 ans, tu t'y retrouves aussi.
Il y a un joueur qui
il va pas avoir plus que ce qu'il a aujourd'hui.
Ouais. T'as un joueur qui est susceptible de partir côté Atlético?
Ah bah c'est le Lemar, quoi.
Ouais.
Bah oui, c'est que voilà, lui après le problème de Thomas Lemar, c'est qu'il n'a toujours pas réussi à faire son trou. Ça fait quand même un petit moment maintenant, il y a de quoi s'inquiéter un petit peu parce qu'il joue des bouts de match et puis il tient pas, enfin il est quasiment inexistant dans les rencontres, et moi ça me chagrine parce que c'est vraiment un bon joueur, vraiment un bon mec, mais il a toujours pas trouvé le rythme de la Ligue espagnole,
c'est-à-dire que ce week-end, hein, je crois qu'il sort à la 55e, il y a Correa qui rentre et qui marque.
Mais oui, c'est ça le problème. En gros, c'est toujours un petit peu avant quand il est titulaire, qui est pas tout le temps. Pas très fréquent, il sort au bout d'une heure, quoi. Donc, on sent qu'il baisse physiquement très fort en deuxième période.
Il y a l'euro qui arrive.
Oui, il y a l'euro qui arrive. Donc, est-ce que Thomas Lemar va être tenté de partir? Et le problème, là aussi, c'est qu'il a un gros salaire. Et puis, surtout, Thomas Lemar, il a été acheté 72 millions d'euros par l'Atlético.
Ah oui, c'est vrai.
Donc, l'Atlético, c'est ça aussi. L'Atlético peut pas le brader non plus. Donc, ça va être de sacrées discussions pour que Cavani vienne à Madrid. Mais sur le principe même, sans rentrer dans les détails, sur le principe, ça n'étonne personne en Espagne que qu'il puisse arriver là. Parce que le gros problème de l'Atlético, et j'en termine là-dessus, c'est que Diego Costa a une hernie discale et qu'on ne sait pas quand il va revenir. Peut-être au mois d'avril, au mois de mai. Donc, enfin, là, il y a besoin de quelqu'un. Et on a bien vu en Ligue des Champions et en Liga où l'Atlético a quand même. Là, ça va, ça fait plusieurs matchs où marque deux buts. Mais la moyenne des buts jusqu'à il y a trois semaines, c'était un but par match.
Morata, ça ne fait pas l'affaire.
Bah Morata, il vend dans
ça suffit pas. Oui, Morata, c'est un joueur, c'est un bon petit joueur, mais c'est pas un type pour gagner avec des champions. Donc on se retrouve du côté de l'Atlético avec le et puis João Félix, il est encore jeune, donc il faut un buteur d'expérience. Diego Costa n'étant pas
c'est
là,
pas
il
un faut buteur, faire venir Félix, un joueur.
Bon, on va passer.
Il se crée des occasions, mais il est souvent fragile parce qu'il est encore jeune dans le dernier geste.
Que Cavani, évidemment. Fred, on va revenir sur la 18e journée quand même de Liga hier. On en a parlé un petit peu dans l'after hier avec Daniel notamment. Le Real a concédé le nul hier, donc 0-0 contre Bilbao. Deux matchs de suite sans marquer. C'est vraiment le problème qu'il va falloir régler pour Zidane.
C'est clair parce que sincèrement, c'est une équipe très solide. C'est une équipe qui est belle à voir jouer. C'est une équipe qui maîtrise totalement son sujet, mais dans le dernier geste, là aussi, dans l'efficacité pure offensive, vous vous rendez compte que Benzema a marqué 12 buts en Liga et que le deuxième buteur, vous savez qui c'est ?
Ramos,
je dirais.
C'est Ramos avec 3 pénaltys.
Ah ouais.
Donc Benzema, il est tout seul.
Moi j'allais rebondir là-dessus justement, c'est que dès que Benzema ne marque pas, de toute façon il n'y a plus personne qui peut marquer dans cette équipe. Et en plus de ça, il a un Jovic qui est l'ombre de lui-même et qui a presque pas de temps de jeu.
Non, qui est en pleine intégration.
C'est un jeune joueur, il passe dans un club en Allemagne mineur, mineur sur la scène européenne au plus grand club du monde. Ouais, mais Francfort, voilà, c'est un club mineur sur la scène européenne au plus grand club du monde, c'est normal.
Tu connais le palmarès de Francfort en
à l'heure actuelle. À l'heure actuelle.
Alors hier soir, il trouve le poteau, il rentre en fin de rencontre, belle tête, il trouve le poteau. Mais bon, Jovic aujourd'hui, c'est pas une garantie. Alors, moi, j'ai eu l'occasion de parler en off, comme on dit, jeudi, avec un important joueur du Real Madrid, parce qu'on discutait ensemble du match nul au Camp Nou, où le Real avait été supérieur, mais le Real a manqué d'efficacité, sinon ils auraient gagné le Classico. Et ce joueur me disait, mais tu sais, il manque quand même hasard. Hein. Ouais. Et c'est vrai que pour la clarté, tu vois, Damien, dans la clarté, tu sais, la clarté qu'il faut à un moment dans la dernière passe, dans le bon choix, parce que vous avez un mec comme Hazard, il fait toujours ça bien, il sait ce qu'il faut faire à chaque moment. Quand Benzema est affublé de Rodrigo et de Vinicius, ce sont de jeunes joueurs qui ont encore beaucoup à apprendre. Ouais. Donc l'expérience d'un Hazard pour faire la passe, la bonne passe au bon moment à Benzema, le meilleur buteur, ou pour mettre le but quand il le faut. Par exemple, il y a un super geste de Benzema, la balle rebondit elle est repoussée, mal repoussée par un défenseur sur la ligne. Il est tout seul au point de pénalty, Vinicius, il a qu'à frapper dedans et c'est but, et il contrôle et il perd la balle. Voilà, ces choix-là, Hazard, Fred, moi je voyais ça, Hazard aurait marqué, donc Hazard fait du mal.
Fred, l'absence d'Hazard fait du mal. Et il n'y aura pas de recrue, hein, c'est ce qu'a dit Zinedine Zidane.
Exactement. Ouais. Et la question qu'on lui a posée hier à Zizou en conférence de presse, c'est. Ah non, mais il a été très clair, c'est qu'il n'y aura pas de recrue.
Il y a un grand mercato cet été déjà.
Oui, puis surtout, franchement, si Hazard est là, et si Bale revient, Benzema, Bale.
Hazard. On demandera tout à l'heure à Julien s'il y a des.
Voilà, enfin, je veux dire, c'est.
A priori, pas de Pogba au mercato d'hiver.
Non, mais sincèrement, Pogba aujourd'hui, malheureusement, n'a pas le niveau de Valverde.
Le Real, ça bouge pas en hiver, ça bouge à la rigueur en été, mais pas maintenant.
Non, mais surtout que là, le joueur, avec Karim Benzema, le joueur le plus important du Real Madrid, c'est Federico Valverde. Donc, il n'y a pas de place pour Pogba.
Un dernier mot quand même sur le Barça, qui compte du coup 2 points d'avance, sur le Real Madrid avec sa victoire 4-1 contre Alaves, grâce à un nouveau but de Griezmann. Alors, quand on regarde les stats, on se dit, ça y est, Griezmann, c'est bon, il est intégré. Est-ce que ça suffit pour dire que le temps d'adaptation est passé pour le Français ?
Non, parce que il y a aussi un problème. C'est intéressant de comparer par rapport au Real, parce que le Real joue bien mais n'est pas efficace. Le Barça ne joue pas bien mais extrêmement efficace. Et on voit par exemple les buts marqués contre l'Alavés ce week-end, la victoire 4-1. On a un Barça avec un Antoine Griezmann qui sur les quatre derniers matchs des Catalans, le premier but a été marqué par Antoine Griezmann. Le match qui manque, c'est le match le 0-0 contre le Barça. C'est-à-dire que c'est lui qui ouvre le couvercle. Et Griezmann, moi, je trouve qu'on n'a rien à lui reprocher. Il fait un boulot défensif énorme. Quand il a une occasion, il la met avec une tranquillité. Mais enfin, c'est vous l'avez vu, ce but, cette frappe sur un centre de Suarez. Après, c'est dans le jeu où on sent qu'il n'est pas encore totalement intégré. Mais je me faisais la réflexion ce week-end. Le problème, c'est que le jeu du Barça n'est pas intégrateur en ce moment parce que c'est pas un jeu bien huilé. Donc ça n'aide pas non plus. Ouais. Mais sincèrement, Griezmann est, et on va le dire, il est déjà rentable pour le Barça.
Bon, ça sera en tout cas un des enjeux de la deuxième partie de saison pour le Barça.
Ah, si on doit faire vraiment la différence entre le Barça et le Real cette année, c'est vraiment la solidité défensive. On a l'impression que le Real ne va jamais rien encaisser, alors que le Barça, même contre des petites équipes, elle encaisse toujours un but ou deux.
Allez, on s'arrête là, Fred. Merci beaucoup d'être passé dans l'after.
Félix Navidad.
Joyeux Noël, surtout, effectivement.
Joyeux Noël à tous.
À toi. Et à très bientôt. On se retrouve bientôt sur les antennes de RMC. Faites bien la dinde et tout et tout. Dans un instant, Julien Laurence avec l'Angleterre et Paulo Breitner qui attend, qui trépigne d'impatience pour parler de Leipzig, de Mönchengladbach, les leaders de Bundesliga. A tout de suite sur RMC dans l'After.
RMC. C'est la façon dont on a joué ce match-là. J'ai pas aimé, manque d'impuissance.
Ça m'arrive de le regarder, ça m'arrive d'aller au Parc Saint-Germain.
Tous les matchs, pour moi, c'est particulier. C'est-à-dire qu'il y a chaque vérité à son match.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot. François Pinet.
De retour dans l'After, 23h02. Merci à vous d'être avec nous ce 23 décembre. On vous souhaite à tous, évidemment, et à toutes des belles fêtes de Noël. On continue de parler, évidemment, de notre Tour d'Europe avec toujours Jonathan McCarthy, Damien Perinel et nos drôles de dames, celles qui restent, Paulo Breitner pour l'Allemagne et Julien Laurence pour l'Angleterre. Dans un instant, on parlera de l'Angleterre d'ailleurs. Il y aura aussi un petit quiz. J'espère que vous avez révisé votre première partie de saison 2019-2020. Et puis, d'abord, on va parler de la Bundesliga avec toi, Paulo. Tu attends depuis tout à l'heure. Il est temps quand même que tout le monde parte en vacances en Allemagne, hein, notamment. Et j'aimerais que tu commences par ça, le futur adversaire du PSG en Ligue des Champions, puisque ça intéresse les supporters du PSG, Dortmund, battu par Hoffenheim ce week-end 2-1.
Bah écoute, défaite inutile une fois de plus, j'ai envie de dire, un nombre incalculable de points perdus depuis le début du championnat, ce qui fait dire d'ailleurs à Lucien Favre que il parle de stupidité quand même, hein. C'est-à-dire qu'il dit on tire lorsqu'il faut faire des centres et on centre lorsqu'il faut faire des tirs, et sa conférence de presse, c'est la première fois vraiment que j'ai vu Lucien Favre abattu. Il savait plus, il y a pas d'explication, parce que encore une fois tout le monde en Allemagne, enfin en tout cas une certaine partie des personnes tombe sur Lucien Favre, mais il dit plus rien lorsque tu vois la façon dont Dortmund domine la première période, ils ouvrent le score, etc. On se dit qu'il va y avoir 2-3-0, et puis c'est un très bon résultat, et on reste dans la course pour le titre. Et puis finalement, cette équipe, en seconde mi-temps, s'écroule à nouveau. Ça se voyait, si tu veux. Tu voyais l'équipe de Dortmund qui commençait à avoir peur, parce qu'ils ont été incapables de mettre le 2-0, parce qu'ils ont été incapables, en plus, j'ai presque envie de dire, de mettre le 3-0, et ça se sentait que Hoffenheim, sur une action presque anodine, 1-1, et puis ensuite 2-1, et puis tu rentres au vestiaire, t'as perdu le match, tu ne sais pas pourquoi. C'est comme ça depuis le début de la saison. On a eu une semaine anglaise, là, donc trois matchs à la suite, ils ont tout simplement perdu 5 points. Rappelez-vous le match contre Leipzig où ils dominent de la tête et des épaules, notamment en première mi-temps, et ben ça fait 5 points de perdu en deux rencontres, et vous vous retrouvez avec un Dortmund et ben qui n'est plus directement un candidat au titre, en tout cas qui n'a plus le droit à l'erreur. Et le problème, c'est que ça joue bien, c'est-à-dire qu'il y a des phases de jeu qui sont assez extraordinaires, et puis il y a des moments, il y a cette fébrilité qu'on n'arrive pas à expliquer. En plus, vous avez vu que certains joueurs se sont blessés, mais les infos qu'on a quand même, ils vont pouvoir partir en stage au mois de janvier, donc ils sont logiquement opérationnels pour la rencontre contre le PSG. Mais le problème, encore une fois, moi, la dernière fois que je parlais du Borussia Dortmund, je parlais du Borussia Janus, parce qu'il y a deux visages, c'est complètement fou, c'est tout est blanc ou tout est noir, c'est assez difficile à expliquer, parce que franchement, l'équipe est talentueuse, et ça, c'est ce qu'on reproche un petit peu en fait à Lucien Favre.
Favre n'est pas menacé pour il sera là sur le banc contre le PSG, ou
il y a toujours une campagne de presse contre lui. Maintenant, quand je regarde ce que fait Lucien Favre depuis 71 matchs, il est maintenant à la tête du Borussia. Il a quand même plus de 2 points de moyenne, ce qui est pas neutre. Ce qui est sûr, c'est qu'il paye toujours le titre perdu l'année dernière en 2019 en Bundesliga. Là, c'est compliqué. L'autre problème qu'il y a, c'est qu'il a de plus en plus officiellement pas de problème d'effectif, mais Paco Alcácer ne joue plus. Il fait le choix, par exemple, contre Hoffenheim, de faire entrer Mario Götze, qui était quasiment absent depuis le début de saison. Il marque le but, donc tu peux pas lui reprocher son coaching. Or, moi, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, mais pourquoi on fait pas jouer par Kolkasser, etc. Il a quelques blessés qui fait qu'il doit compenser. Il aime pas, on le sait, les vrais numéros 9. Le Lucien Favre est plutôt des adeptes des 9,5. C'est pour ça que, lorsque j'entends des noms qui circulent ou des gabarits très, très, plus d'un mètre 90 qui circulent du côté de Dortmund, c'est mal connaître, Lucien Favre qui n'a jamais utilisé ce type d'attaquant. Donc c'est pas qu'il est menacé, c'est qu'il a une épée de Damoclès au-dessus de lui. Ça veut pas dire qu'il va pas continuer jusqu'à la fin de la saison, mais c'est compliqué. C'est sûr que voilà, c'est pas évident.
Pourtant il est quand même revenu sur je trouve qu'il s'est bien adapté parce qu'il est revenu sur un 3-4-3. Et comme tu dis,
il est pas revenu. C'est la première fois de sa vie qu'il fait ça.
Ouais, je veux dire par rapport à Dortmund, parce que quand tu vois le match contre Leipzig, franchement. Mais en fait, il se suicide, quoi. Les erreurs individuelles, mais ensuite, il sanctionne pas.
Il jouait pas avec Pléa à Nice en neuf.
Non, mais Pléa, c'est 1m80, 1m85. Pléa, c'est pas. Mais ça mange pas les gros gabarits. J'entends que Marcus Thuram aurait été contacté par Dortmund.
Ouais, c'est pas pareil,
parce que
ouais.
J'entends qu'à Haaland, c'est pas le même gabarit. Je veux dire, là, c'est un vrai problème parce que ça veut dire, si, par exemple, Borussia Dortmund faisait le Norvégien, je suis pas persuadé que Lucien Favre soit d'accord. Ouais. Comment ça se passe le recrutement à Dortmund, qui est un petit peu compliqué au passage, parce que il y a un président et il y a aussi un directeur sportif qui font un peu la pluie et le beau temps. Et même s'ils demandent l'accord toujours du coach, c'est pas tout à fait le coach qui donne son avis à la fin.
Et notre Witzel, il va revenir un jour.
Oui, Witzel, il va revenir pour le match de février. Ça c'est pas compliqué. Ouais. Ça c'est pas le problème. Si tu veux, c'est que tu regardes l'équipe. Achraf Hakimi, alors c'est ce fameux 3-4-3 qu'il a mis en place dernièrement, enfin 3-4-1-2 si on veut penser que Marco Reus en fait joue à la place comme attaquant et comme meneur. Achraf Hakimi, c'est extraordinaire ce qu'il fait sur son côté droit, sauf qu'il sait pas défendre. Ouais. Il est tellement jeune aujourd'hui, il a un tel volume de jeu qu'il fait des jeux en triangle extraordinaire sur le côté droit, mais c'est tendu. Du côté gauche, c'est Schultz ou Guerrero qui sont pas en super forme en ce moment. D'ailleurs, Schultz pourrait d'ailleurs, à mon avis, n'est pas sûr de partir à l'Euro 2020. On a une défense centrale qui est catastrophique, sauf Zagadou qui a quand même que 20 ans. Tu gagnes pas une Ligue des Champions, je suis désolé. Avec des défenseurs centraux de 20 ans, c'est très compliqué. Akanji, l'international suisse, c'est pas beau. Burki, le gardien suisse, est capable de faire des boulettes, comme de faire des matchs extraordinaires. Mais ça, c'est intéressant parce que Burki, c'est de mon point de vue un très bon gardien, mais c'est pas le gardien qu'à mon avis qu'il faudrait pour le Borussia Dortmund. Et ça fait des années que ça dure. Donc le De La Haine, pour l'instant, l'international danois est blessé. Mo Daoud a complètement disparu. Brun Larsen, le danois, lui aussi veut partir parce qu'il a pas de temps de jeu, etc. Donc on a vraiment un très bel effectif, mais tu sens que je m'excuse d'être vulgaire, mais il y a Thorgan Hazard qui a fait une conférence de presse, dit je pars en congé là pendant une semaine là, et je dis j'ai un sentiment, excusez-moi d'être vulgaire, de merde quoi. C'est-à-dire que ils se disent que cette équipe là de Dortmund doit faire mieux, beaucoup mieux.
Alors, en tout cas, c'est plutôt rassurant pour les supporters du PSG qui doivent nous écouter maintenant. Il y a un autre club, donc le Bayern bien sûr, avant de parler des leaders, qui malgré sa victoire ce week-end, au vu de la rencontre, n'est pas totalement guéri. C'est un jeune joueur là, alors peut-être avant de parler du Bayern, je ne sais pas comment on prononce.
Néerlandais de 18 ans.
Mais en fait, c'est incroyable ce qui s'est passé.
C'est typique de ce qui se passe, j'ai envie de dire, en particulier pour le Bayern Munich et en général pour le football allemand.
Il a marqué deux buts en 8 minutes, quoi, c'est ça. Voilà. Deux matchs et 8 minutes.
Alors, mais ça, c'est aussi, c'est fou. C'est-à-dire qu'on dit que Dortmund n'a pas de chance, mais de l'autre côté, le Bayern Munich, ils ont de la chance. Ils ont eu un match très compliqué à Fribourg en milieu de semaine. Et là, il y a 1-1. C'est les arrêts de jeu. Et on fait rentrer ce gamin de 18 ans et il marque le but à 2-1 qui permet finalement après c'est 3-1 parce que évidemment Fribourg cherche à égaliser tout de suite et puis il y a un contre. Et puis cette semaine c'est pareil aussi, ce week-end pardon, c'est pareil aussi, le match, il y a comment ça s'appelle, et on n'y arrive pas. Wolfsburg avait décidé de mettre des joueurs en contre et de solidifier un peu tout le schéma défensif, et hop on fait rentrer à nouveau le gamin, et hop il marque le but, etc. Donc il a deux titularisations en Bundesliga, 8 minutes en Bundesliga, 2 buts, ce qui est assez extraordinaire en statistique. Mais surtout au passage, avec une nouvelle passe de Thomas Müller qui est un nouveau recordman des passes décisive lors des matchs allés de l'histoire de la Bundesliga, ce qui est pas neutre. Et on se passe quand
alors
même. Ça,
on
ça a l'air
de pensait
rien.
Qu'il était à la cave. Mais...
Ah bah moi depuis le début de la saison en fait.
Non mais il est revenu quoi avec le retour de Flick.
Il est bien revenu. Il a profité pour faire dégager Nico Kovac au passage. Mais quand il est titulaire, il est toujours, comme on dit en Allemagne, au Bayern, on joue pas sans Thomas Müller. C'était un axiome de Louis van Gaal. Donc c'est important. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont de la chance quand même. Ça veut pas dire qu'ils ont pas dominé le match, etc. Mais ils sont pas malheureux. C'est-à-dire qu'ils restent encore accrochés. Alors, je pense qu'on va avoir une deuxième partie de saison avec la piste assez extraordinaire pour le titre. Le Bayern, qui, lui, a toujours des problèmes défensifs. C'est pas tellement quel est son 11 de départ. C'est très intéressant le banc qu'il y avait contre Wolfsburg. Il y avait que des jeunes, sauf Boateng, qui avait rentré parce que Martinez s'est blessé musculairement pendant un long moment.
Donc, ah ouais, quand on regarde le banc,
il a pris un peu de poids, hein, Boateng.
Légèrement.
Hein, ouais. Alors le pied est là au niveau de la qualité de la relance, mais.
D'ailleurs c'est un peu le vrai problème. D'ailleurs, si vous avez peut-être entendu qu'il y a des rumeurs d'aller chercher un arrière droit, c'est-à-dire qu'il est fort possible qu'en deuxième partie de saison, lorsqu'Hernandez reviendra, et il ne reviendra pas avant la reprise. C'est-à-dire que déjà là, la saison d'Hernandez quand même, elle est plus que limite, hein, au passage. Ouais. Hein, c'est-à-dire qu'il va quasiment pas jouer. Il est sûr qu'on va mettre à la barre en défense centrale en ce moment. Il y a le jeune Davis, 18 ans, qui est la vraie bonne surprise Canadien. De la saison, en fait. Il est possible que Pavard soit décalé en défense centrale parce que Martinez est blessé et Boateng, honnêtement, c'est un camion, quoi. Donc, c'est très compliqué. Donc, Kimmich, on le préfère le mettre au milieu parce que Thiago est encore blessé. Goretzka est blessé. Tolisso, il est souvent absent quand il n'est pas blessé. Donc, c'est un petit peu compliqué, tout ça. Mais ils sont toujours là, on va dire. Mais ce qui m'intéresse, parce que j'aime bien regarder aussi sur le moyen terme, c'est que, il va falloir que, y compris les supporters du Bayern, arrêter avec le super Bayern des périodes Heynckes et Guardiola. C'est complètement fini. Là, ils ont 33 points. Lorsque le Bayern gagnait en 2013-2014 le championnat, on était à 91-90 points, c'est-à-dire qu'ils balayaient le championnat. Là, on est redevenu avec Leipzig et Mönchengladbach sur des niveaux, entre guillemets, humains. C'est-à-dire 70-75 points à la fin de la saison, c'est normal. Et en fait, on a vécu une période extraordinaire, je l'entends au sens premier, qui n'est pas ordinaire avec ce qui s'est passé avec le Bayern, qui au passage avait gagné la Ligue des Champions. Donc ça me semble important de citer ce qui se passe en Bundesliga en ce moment, parce que on est juste redevenu à la normale, entre guillemets.
Ouais, et le Bayern qui a confirmé Flick, donc jusqu'à la fin de saison au moins, c'est
jusqu'à
ça.
Jusqu'à la fin de la saison
au
moins.
Pas un nouvel entraîneur, quoi.
Et puis il va y avoir une autre polémique qui va arriver, parce que peut-être que vous l'avez suivi, que Nübel, le gardien de Schalke 04, a décidé, comme il était en fin de contrat, de quitter Schalke 04, donc le club de Gelsenkirchen, à la fin de la saison. Et on l'annonce, en tout cas la presse, on attend la confirmation, l'annonce pour un contrat de 5 ans au Bayern l'année prochaine. Ah. Le problème, c'est qu'on l'annonce comme le futur international allemand, sauf qu'il y en a déjà un qui est là-bas, qui devrait d'ailleurs prolonger jusqu'en 2023. Donc je sais pas, je pense beaucoup à un Barcelonais en ce moment qui doit se trouver entre deux feux, qui doit plus savoir un petit peu où on en est. C'est très compliqué parce que les gens ne comprennent pas si Nübel évidemment part au Bayern, tout en sachant que rappelons que Manuel Neuer était une ancienne Gelsenkirchen, qui se connaissent bien avec Nübel. Le problème, c'est qu'il a 23 ans. C'est le futur international allemand. Faudrait pas qu'il perde son temps en étant le numéro 2 du Bayern dans les années prochaines.
Ouais. Et donc, dans ce classement surprenant, tu l'as dit, Leipzig est leader, Gladbach est deuxième. Est-ce que ces deux équipes peuvent vraiment viser le titre et résister à un retour, pourquoi pas, du Bayern qui a quand même remporté les 7 derniers championnats? Ouais.
Alors moi, ce que je pense, c'est très intéressant, il y a eu une interview de Nagelsmann en Allemagne qui a été assez extraordinaire, où il a assez critiqué le niveau de sa
L'entraîneur de Leipzig. Hein,
ouais. L'entraîneur de Leipzig qui a critiqué le niveau de son équipe, non pas en disant qu'ils sont mauvais et tout ça, mais il disait par rapport aux objectifs des grands clubs européens, Leipzig n'est pas encore arrivé. Rappelez-vous que cette saison, lorsqu'il y a eu le match Leipzig-Bayern, et bien il y a le fameux 1-1, le Bayern avait complètement dominé, archi dominé.
Jusqu'au changement tactique de Nagelsmann, exactement. Qui avait équilibré.
Exactement. Il y a le 3-3 cette semaine entre Dortmund ou Leipzig. Leipzig se fait pulvériser en première mi-temps. Et en fait, je trouve que Leipzig a la chance du champion. Et en Allemagne, il y a quand même beaucoup de personnes qui se disent Mais ils vont aller le chercher, ce titre, mine de rien. Ils en sont à 8 matchs sans défaite en Bundesliga, 7 victoires, 1 nul, 3 pions à chaque fois au minimum. C'est-à-dire qu'ils sont en train, offensivement, ça marche très très bien. Ils vont récupérer leurs blessés au mois de février. On verra ce qu'ils feront en Ligue des Champions, parce que Tottenham, quand même, c'est pas facile. Mais ce qui est sûr, c'est que s'ils finissent deuxième, on dira, le Bayern est plus fort. Mais ils ont tout pour aller chercher la première place. Et je mettrais bien une petite pièce, petit phénix.
Mais là, quand tu regardes le match contre Augsbourg, en plus, qu'est-ce qui graille devant? Parce que Werner, les opportunités de but que tu as et qui vont pas au bout, parce qu'ils ont, ils perdaient 1-0, mais ils ont dominé, archi dominé, ils ont un nombre d'occasions incroyables, et 3, c'est le minimum presque.
Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils sont. Alors Augsbourg est dans une super, enfin fini, était dans la zone rouge. Ils sont réussis à revenir à la 10e place. Ils sont dans une vraie dynamique en ce moment. Donc c'était pas évident ce match-là. Ils sont menés 1-0 comme tu l'as dit. Et surtout, ils arrivent à revenir. Sauf qu'une chose que n'arrive pas à faire Dortmund, par exemple. Dortmund perd des points quand Leipzig va les gagner. Et ça, quand même, s'ils arrivent à faire la même chose lors de la deuxième partie de saison. C'est l'énorme différence avec le Bayern. Le Bayern n'a plus le droit à l'erreur, en fait, tandis que Leipzig, ils ont encore un ou deux jokers. Ouais. Ça, ça me semble important pour la suite de la saison. Je ne serais pas surpris, même si ce n'est pas, de mon point de vue, la plus belle équipe d'Allemagne, ou en tout cas la plus forte, je ne serais pas surpris que Leipzig soit le champion 2020.
Ouais. Paulo, est-ce que tu peux nous faire un petit bilan de la première partie de saison, du contingent de Français que tu as embouli?
Alors attends, j'en ai 26. Alors
des Français qui vont rentrer.
On va dire. Alors ceux qui ont bien marché à Leipzig, évidemment, c'est ou pas. Konaté, je vais y arriver. A été blessé malheureusement. C'est dommage parce qu'il a sa place de titulaire. Nkunku, c'est très bien intégré.
C'est pas mal,
J'ai pas envie de dire dans le 11, mais dans les 14 en tout cas.
Okay.
Il est là pour.
Il pourrait être meilleur passeur.
Il pourrait être meilleur passeur. Ouais. En fait, ce qui est bien, c'est moi où je les adore voir jouer, c'est quand il y a Werner devant, il y a Forsberg et Sabitzer avec Nkunku.
Il joue Nkunku à Leipzig.
Alors en général, il joue toujours. Alors il joue un peu partout lui. Hein. Il joue un peu partout et surtout derrière Werner, il joue souvent en deuxième attaquant, en 9,5 et surtout en fait il joue beaucoup parce que Sabitzer c'est presque le meneur de jeu quand c'est pas Forsberg. Donc c'est à ce niveau-là. Si on passe au Bayern, là, c'est beaucoup plus.
Et Nordi Mukiele, Polo qui fait une bonne saison à droite.
Mukiele qui n'est pas systématiquement titulaire. Ouais. Moi, j'ai un vrai problème avec lui, c'est-à-dire qu'il a une puissance évidemment qui est là. Le vrai problème que j'ai avec Mukiele, c'est qu'il me fait penser à des copains d'enfance qui te faisaient le 100 mètres en 10 secondes et que lorsqu'il lui demandait de centrer, il se retrouve à faire un drop et ça devient un peu compliqué. Mais il a une puissance en défense, c'est vrai, qui est impressionnante. Si je passe au Bayern, c'est beaucoup plus compliqué déjà parce que Coman a certes flambé en début de saison, ensuite il a été blessé, c'est moins bon. Ensuite, on a la vraie bonne surprise. Entre bonnes surprises, pas forcément dans ses prestations, mais en tout cas, c'est le fait qu'il joue, c'est pas mal, évidemment. Parce que c'était au départ, c'est un couteau suisse, quand tu vois l'effectif, il est pas dans le 11 titulaire. Tolisso, blessé lorsqu'il joue, c'est pas forcément extraordinaire non plus.
C'est pénible pour les Bleus, ça.
Ouais, et puis le quatrième qui évidemment
Cuisance
joue dans la troisième division. Non, et puis Lucas Hernandez qui est blessé évidemment, qui était théoriquement celui qui était titulaire et qui est le grand absent en fait de cette équipe bavaroise. Mais faut faire attention aux statistiques au Bayern, parce que quand tu es dans le Bayern et que tu mets 5-0 à tout le monde et que tu mets un but, on a l'impression que c'est extraordinaire. Les performances de Pavard depuis le début de saison sont relativement moyennes. Ensuite Dortmund, j'en ai pas. Ensuite
Mönchengladbach.
Alors Mönchengladbach,
le duo français.
Alors ce qui est intéressant, Marcus Thuram, on va dire qu'il a eu un début très compliqué lors des trois premières journées où moi j'avais relevé surtout son déficit technique qui me semblait rédhibitoire pour la Bundesliga. Il a ensuite une période extrêmement prolifique, notamment au niveau des buts, et c'est lui qui a plus ou moins tiré avec Zakaria, l'international suisse, l'équipe. Il a ensuite sur ses disons-le très clair, Marco Rose l'a utilisé pour tous les matchs et il finit le dernier mois, complètement, le mois de décembre, complètement rincé. D'ailleurs, il marque plus depuis trois matchs en Bundesliga. Il a quand même marqué à nouveau en Europa League, mais n'oublions pas que Mönchengladbach est éliminé. Donc ça, c'est la bonne, Thuram est une bonne surprise. N'en faisons pas non plus un ballon d'or tel que je peux le voir ici et là.
Qui a dit ça?
Et Pléa, le problème, c'est qu'il a été.
Quelqu'un qui a pris de la drogue, qui a dit ça.
Et Pléa, non, ce qui est sûr, c'est que pour Thuram, pour être sérieux, et là, je bats ma coulpe, c'est qu'il a quand même fait d'énormes efforts au niveau technique, ce qui n'était pas le cas lors de ses premiers matchs, et il est en train de s'intégrer à l'équipe de façon assez, assez intéressante. Pléa, c'est une bonne chose, mais il est blessé. Lui aussi, il a aussi marqué 6 buts, si je me rappelle bien. Il a tout pour être le titulaire de l'attaque aux côtés de Thuram. N'oublions pas qu'il y a une grosse concurrence avec Mbolo, Herman, et puis Lars Kindle, quand même, le capitaine. Internationalement. Si je descends ensuite, moi, je veux bien vous faire toutes les équipes.
Les principaux.
Moi, je voudrais dire, un joueur, on ne parle jamais en France, c'est Jonathan Schmid, le joueur de Fribourg.
Oui, il est toujours là-bas. Voilà. Il avait une espèce de crête là.
Exactement. Plus maintenant, mais c'est un joueur que j'apprécie.
Rappelle-nous, latéral gauche ou droite?
Aujourd'hui, alors dans le 3-4-3 de Fribourg, il joue plutôt milieu droit.
Et son piston droit.
Il a un pied droit.
Je me souviens, il est toujours là. Enfin,
je ne comprends pas que ce joueur, même si je sais qu'un club français s'intéressait à lui il y a quelques années, mais maintenant, à 20 ans, c'est un peu fini. Qui je pourrais vous dire encore?
Non, mais c'est bon. On a fait quand même les principaux, je pense.
Voilà, les principaux, en tout cas pour les grosses équipes.
Bon, en tout cas, il y a deux
années. Diaby qui m'énerve beaucoup.
Diaby
à Leverkusen, qui est souvent titulaire parce qu'il y a des problèmes avec Bailey et Bellarabi. Et Diaby, en fait, il est doué techniquement, il a des choses, il fait des choses extraordinaires entre les 50 mètres et les 35 et 30 mètres, 25 mètres, sauf que souvent dans la dernière passe ou tout simplement sur les tirs, il choisit pas, il fait pas le bon choix et il est à Leverkusen, donc il doit absolument s'améliorer.
C'est bien celui du PSG dont tu nous parles,
oui,
Paulo.
Oui, il est encore jeune.
Et
Mateta qui est revenu à Mayence, qui j'espère fera comme l'année dernière, parce qu'il avait mis 14 buts, si je me rappelle bien l'année dernière, qui va revenir, qui était blessé, qui revient en ce moment. Et on l'espère en seconde partie
En tout cas, il y a une grosse mode aussi des coachs allemands. Hein. Tourelle au PSG, Nagelsmann, Rose, là, ce sont deux jeunes coachs qui sont en tête de Bundesliga.
On les attendait.
En Angleterre aussi. Premier.
Il y a Farke, Norwich, ils sont partout là, les entraîneurs allemands.
Peut-être une inspiration pour la DTN.
C'est un débat très intéressant.
J'espère l'occasion de le faire, sur RMC.
Vas-y, 5 secondes. Juste parce qu'on parle toujours des coachs allemands qui réussissent liés à cette révolution footballistique allemande, mais on oublie tous ceux qui étaient cramés. Moi, je pourrais vous en citer plein qui, il y a 4-5 ans, étaient là et qu'on disait que c'était les futurs grands, et finalement, ils sont passés à la trappe. Et donc, on parle souvent de Club Tourelle, mais il y en a aussi beaucoup qui passent à la trappe, et ça serait intéressant de relativiser, on va dire, la formation des coachs à l'allemande, même si, évidemment, au niveau du spectacle, moi, je me régale, et on va avoir une deuxième partie de saison extraordinaire, donc voilà, ça va y aller, quoi.
Ah, il est content de sa Bundesliga, mais c'est vrai, du suspense, on suivra ça évidemment cette deuxième partie de saison avec toi, Paulo. Merci beaucoup, Paulo.
Régale-toi, Paulo.
Merci beaucoup.
Bonne fête à toi.
Paulo Weinharten,
messieurs. Merci.
Ciao.
On a rien compris. À très bientôt, Paulo, sur RMC. On revient dans un instant. On parlera de l'Angleterre, bien sûr. Il y a beaucoup de choses à dire après le week-end européen. Il y aura le quiz aussi, Jonathan et Damien. On jouera avec Arthur Robert qui a préparé ce quiz spécialement pour nous. Vous pouvez jouer également chez vous, bien sûr. Et puis le résultat du jeu Survivor. C'est dans un instant. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à minuit. L'After Foot. François Pinet.
Jonathan Macardy, Damien Perrinel, toujours là, toujours en forme, messieurs. On est encore là pendant plus d'une demi-heure, jusqu'à minuit dans l'After, avec également la suite de nos drôles de dames, le tour du week-end européen. On a fait l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne. On va parler de l'Angleterre maintenant avec Julien Laurence. Salut Julien.
Salut François, salut à tous.
Salut Julien.
Avant de parler de la Première Ligue, Julien, on vient quand même sur Liverpool, qui est sur le toit du monde, champion du monde des clubs, vainqueur de cette compétition, donc face à Flamengo le week-end dernier. Est-ce que ça compte, ça, en Angleterre, le championnat du monde des clubs?
Alors, c'est un peu le débat, tu sais, ici, c'est que il y a eu un souci avec le calendrier pour les joueurs de Liverpool, puisqu'ils ont dû jouer un match de coupe de la Ligue anglaise un jour avant, à la veille de jouer leur demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Donc, Klopp avait demandé si le match de Coupe de la Ligue aurait peut-être pu être reporté un autre jour pour pouvoir mettre leur meilleure équipe en Coupe de la Ligue et puis aussi emmener leur meilleure équipe possible dans ce championnat du monde des clubs. Cela avait été refusé, donc ils avaient envoyé une très très jeune équipe qui a d'ailleurs pris 5-0 à Aston Villa le mardi soir pour jouer en Coupe de la Ligue, et le mercredi ils avaient gagné leur demi-finale de championnat du monde des clubs, parce qu'effectivement ici pour les Anglais en tout cas, ou pour beaucoup d'Anglais, la Coupe de la Ligue anglaise était plus importante que le championnat du monde des clubs. Et Klopp d'ailleurs a eu cette phrase assez mythique pendant une conférence de presse avant la finale, en disant: mais vous savez, quand Flamengo ils quittent le Brésil, ils sont poussés par tout un pays qui les fait rêver en leur demandant de leur ramener ce trophée de championnat du monde des clubs. Nous, quand on est parti, on avait des gens en Angleterre qui voulaient qu'on laisse tomber cette compétition et plutôt qu'on se concentre sur la Coupe de la Ligue anglaise contre Aston Villa. Et pour Klopp, il disait: c'est pas comme ça que ça marche. C'est un trophée très important pour nous à Liverpool. Liverpool l'avait jamais remporté. Ils l'ont fait, et plutôt de belle manière, contre une équipe de Flamengo qui leur a donné du fil à retendre, et ça a été plutôt une belle finale, j'ai trouvé. Et c'est vrai que Liverpool, eh ben, c'est très content d'aller au Qatar pour jouer cette compétition et pour la remporter aussi.
Vas-y Damien, avec le micro.
Ça, c'est bon. Ça fait trois titres en 2019. C'est pas négligeable pour ce club. Hein. D'autant plus, quoi. Ça reste un titre important.
Ouais. Et puis, il y aura un match important maintenant pour Liverpool. On repart du championnat. Et là, tu vas être sollicité parce que c'est le fameux Boxing Day. Leicester, Liverpool, jeudi prochain, le deuxième contre le leader. En gros, si Liverpool gagne, c'est terminé. Ça y est, il n'y a plus de suspense.
C'est déjà fini, non?
Ouais, je pense que c'est déjà terminé. Ils ont 10 points d'avance. Bien sûr que si Leicester s'imposait et infligerait pour la première fois sa première défaite à Liverpool cette saison en première ligue, ça ferait 7 points. Mais j'ai du mal quand même à croire que Liverpool puisse lâcher cet avantage maintenant. Ils sont tellement en contrôle, ils sont tellement en confiance. Même quand ils jouent pas bien, ils gagnent les matchs de première ligue. Ils ont un seul match nul cette saison à Manchester United et sinon que des victoires depuis le mois d'août. C'est une vraie machine. C'est vraiment assez impressionnant.
Ils avaient 10 points aussi sur City dans l'an dernier à un moment donné, non?
Alors ils avaient 7 points d'avance le 3 janvier avant d'aller jouer à City. En cas de victoire, ils auraient eu 10 points d'avance sur les Citizens. Ils ont perdu cette rencontre là donc ils sont descendus à 4 points.
Ouais, donc là,
et après voilà, ils sont revenus.
C'était
c'était pas Leicester non plus, c'est vrai.
Et Guardiola en plus a dit récemment là qu'il y croyait pas vraiment, il était pas très optimiste sur le fait que Liverpool perde des matchs, que lui en gagne oui, mais que Liverpool en perde, c'était plus compliqué.
Exactement.
En première ligue, justement, il y a un duel aussi important en vue de la Ligue des Champions pour la qualification. C'était Chelsea qui s'est imposé sur le terrain de Tottenham 2-0. C'était surtout les retrouvailles de Lampard et de Mourinho. Lampard qui a été joueur de Mourinho. Et Lampard a donné une sorte de leçon à Mourinho.
C'est ça, c'était vraiment le maître contre l'élève, ces retrouvailles entre José Mourinho et Frank Lampard. La saison dernière, quand Lampard était à Derby County, il avait déjà éliminé en Coupe de la Ligue anglaise le Manchester United de José Mourinho. Tout le monde avait mis ça un petit peu sur le fait que c'était un match de coupe, que United ce soir-là, Mourinho avait fait un petit peu tourner, etc., etc. Là, c'était un vrai match. Et on attendait vraiment d'ailleurs les retrouvailles entre les deux et surtout voir tactiquement qui allait l'emporter sur l'autre, comment Lampard allait se comporter. Chelsea venait de perdre 4 de ses 5 derniers matchs de championnat avant son déplacement au Tottenham Stadium, et bien finalement il n'y a pas eu de match. On espérait tous un match et il n'y a pas eu de match, tellement Chelsea a été supérieur, tellement Lampard a été supérieur à Mourinho tactiquement dans cette rencontre. Et pour vous dire à quel point ça a dû faire du mal à José Mourinho, c'est qu'à la fin du match, tout ce qui l'intéressait de parler pour dévier un petit peu les conversations, c'était sur le carton rouge de Son pour son coup de pied à Antonio Rudiger et pas du tout sur la rencontre, parce que Mourinho savait très bien que les questions auraient été très désagréables pour lui sur la supériorité de Lampard tactique pendant cette rencontre.
Tottenham qui est 7e à 6 points de Chelsea qui est 4e.
Au-delà du coup tactique qui rappelait peut-être le Chelsea de Conte sur le 3-4-3, il y a aussi Chelsea qui va pouvoir recruter maintenant et combler des trous lors du mercato.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais, on va pouvoir voir effectivement ce que Lampard va faire. On parle d'un attaquant, on parle d'un arrière gauche aussi. Ça va être intéressant de voir effectivement le départ de Giroud, lui est acté, je pense.
T'as des nouvelles sur sa destination?
Non, pas encore. Je pense qu'un club comme l'Inter Milan, par exemple, est toujours très intéressé.
Ouais, super, il jouera
club,
pas non plus.
De club anglais. Non, mais bien sûr, ça, il prendra ça en compte. Il verra bien un moment. De toute façon, le marché n'est pas encore ouvert maintenant, mais c'est sûr qu'il ira voir, il ira ailleurs, et c'est ce qu'il lui faut de toute façon. Mais ils le remplaceront en allant chercher quelqu'un qui sera peut-être plus haut dans la hiérarchie aussi et qui jouera peut-être plus que Giroud l'a fait.
Ouais, au moins, ils ont la possibilité de le remplacer.
On parle de Haaland.
Voilà, c'est ça.
Le joueur de Salzbourg. Là encore.
Pas à Chelsea, je pense. Je pense qu'il y a d'autres clubs qui sont bien dans un état bien plus avancé, Dortmund et Leipzig notamment, plus que Chelsea.
D'accord. Et aussi un mot quand même sur ce qui s'est passé et qui a marqué l'Angleterre. Ce sont les cris racistes à l'encontre de Rudiger dans le stade à Tottenham. Et c'est vrai que Mourinho en a parlé. Rudiger aussi a réagi en espérant qu'il y ait des sanctions pour les comportements racistes des supporters de Tottenham.
Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vrai que le match a été arrêté avec une partie du protocole, pas le protocole FIFA et UEFA, mais le protocole de la Première Ligue, où il y a eu une annonce faite par le speaker du stade en disant que les cris racistes avaient interféré pendant la rencontre et que c'était inadmissible et que la rencontre pourrait être arrêtée à un moment ou à un autre. Ça s'est arrêté effectivement, ce qui est une bonne chose. Mais c'est vrai qu'encore une fois, c'est pas la première fois cette saison. Malheureusement, ici en Angleterre, on parle beaucoup de la Serie A, on parle beaucoup de l'Italie. Mais en Angleterre, les Anglais devraient bien regarder devant leur porte, parce que c'est vrai que ça arrive de plus en plus. Et c'est forcément très regrettable. Mais c'est aussi quelque chose qui arrive, parce que je pense que la Première Ligue et la Fédération Anglaise ne font pas assez pour éradiquer ce problème.
Et puis un autre résultat marquant ce week-end, c'est la victoire de la Lanterne Rouge, Watford, face à Manchester United 2-0. Ça a été marqué par le retour de Pogba, on va peut-être en parler un peu plus longuement tout à l'heure, mais quand même, comment c'est possible que Manchester United perde face à cette équipe qui avait gagné deux fois seulement depuis le début de la saison?
Deux fois et jamais à domicile, hein, d'ailleurs. C'est la première victoire en Première Ligue à domicile. Alors, il y a une stat assez impressionnante sur Manchester United cette saison, c'est que dans les matchs où ils ont eu plus de 50% de la possession de balle, ils n'ont gagné qu'une seule rencontre pour 6 matchs nuls et 5 défaites. En gros, ça veut dire que dès qu'ils jouent contre des grosses équipes où ils peuvent leur laisser le ballon et eux jouer en contre-attaque, ça leur réussit. On l'a vu, la victoire contre Manchester City, le match nul contre Liverpool par exemple, ou même la victoire contre Tottenham de José Mourinho récemment. En revanche, quand eux ont beaucoup le ballon et qu'ils laissent, et que c'est l'adversaire qui joue en contre et eux qui doivent faire le jeu, là ils ont beaucoup plus de mal, et l'absence de Pogba n'a pas aidé aussi dans ce sens-là depuis le 30 septembre. Pogba, tu l'as dit, il est entré à la 64e minute de jeu, il a été très bon. Il a créé plus d'occasions pour Manchester United à lui tout seul lors de ces 25 minutes-là que tout le reste du match avec ses coéquipiers. Donc c'est le seul point positif de cette journée, où David De Gea a encore fait une bourde énorme sur le premier but d'Ismaïla Sarr pour Watford, l'ancien Rennais, mais la bonne nouvelle, c'est vraiment le retour de Pogba, et dans cette forme-là déjà, avec comme j'ai dit, son dernier match remonté au 30 septembre.
Mais c'est quand même surprenant, ce Solskjaer, il va rester là avec des résultats pareils?
Pour l'instant, il reste. C'est ce qu'on m'a encore répété ce matin. Ça fait donc un an. Il a fêté ses un an à la tête de United hier, justement. Et c'est vrai que malgré des très bonnes performances contre les gros, c'est ce qu'on vient de dire, c'est assez insuffisant dans l'ensemble quand même. Et d'ailleurs, le fait qu'il soit toujours un petit peu en position difficile, on va dire, ou en tout cas pas là où ils aimeraient l'être au classement,
et ça montre aussi les limites, de Solskjaer. De la quatrième place. Et on en parlait un petit peu avec Fred, qui n'y croyait absolument pas, mais un départ de Pogba lors de ce mercato d'hiver, c'est envisageable ou pas du tout?
Non, je ne crois pas non plus, non.
Non, il va rester.
Ouais.
Il devrait, Pogba qui ne quitte pas Manchester, qui est pourtant dans une situation délicate.
Non, mais encore une fois, Pogba, de toute façon, il va falloir qu'il se remette.
On pense forcément à l'Euro, hein, du côté de.
Ouais, mais justement, qu'il joue dans un environnement
qui prenne du rythme, il est à l'aise. Puis,
c'est le genre de joueur que tu fais sur un gros transfert estival.
C'est il partira cet été de toute manière, mais là, cet hiver, ça aurait ni queue ni tête.
Ah bon?
Ni pour le joueur, ni pour le club, ni pour le club qui l'a acheté.
Si t'as le Real qui t'appelle, ça n'a pas de tête ni de queue.
Mais le Real ne veut pas recruter apparemment.
Oui. Zidane, c'est ce qu'il a dit effectivement. Mais bon, si on lui propose un Pogba, il changera peut-être d'avis. Boxing Day, donc tu vas avoir du travail, mais t'en as tout le temps, du travail bien sûr, mais là encore plus, puisque tu es quasiment le seul à ne pas t'arrêter pendant les fêtes, Julien. Mais ça va être intéressant, ce Boxing Day, parce qu'il y a deux équipes qu'on va suivre particulièrement. Everton et Arsenal, parce qu'ils vont changer, évidemment, ils ont changé d'entraîneur. Everton avec Ancelotti et Arsenal avec Arteta. C'est quand même assez surprenant. Je ne sais pas ce que vous en pensez aussi, Damien et Jonathan, de retrouver Ancelotti à la tête d'Everton, qui est pourtant 15e de Première Ligue. En Angleterre, ils ne sont pas surpris, ils trouvent ça tout à fait normal.
Non, ils sont un peu surpris, c'est vrai, parce que par rapport à son palmarès et à son pédigré et les clubs qu'il a entraînés avant, et c'est vrai que tu as l'impression, enfin c'est pas une impression d'ailleurs, c'est que tu descends un petit peu quand même d'une catégorie ou deux pour aller à Everton, mais c'est un projet qui l'intéresse, un projet intéressant d'ailleurs, je le trouve, avec un nouveau stade qui va arriver en 2023, un stade magnifique de 52 000 places, avec un propriétaire, Moshiri, qui a de l'argent, même si à un moment le fair play financier va aussi entrer en jeu. Ils pourront pas dépenser 200 millions d'euros tous les étés comme ils viennent de le faire lors des deux derniers étés, mais c'est un projet intéressant, je pense, avec un effectif qui est aussi intéressant. C'est ce qu'Ancelotti a expliqué aujourd'hui lors de sa première conférence de presse. Et puis après, de l'autre côté, on a Mikel Arteta, le retour au club à Arsenal de l'ancien capitaine, qui a passé 5 ans au club sous Arsène Wenger, qui est parti ensuite apprendre le métier d'entraîneur avec Pep Guardiola, qui connaît depuis qu'il a 15 ans, et puis qui revient maintenant pour un petit peu sauver le club à Arsenal, qui se traîne, on l'a dit, en deuxième partie de moitié de tableau, ce qui est assez incroyable pour un club comme Arsenal, depuis le départ d'Emery, il y a maintenant 23 jours, je crois. Arteta avec une énorme tâche face à lui, un gros challenge, un gros défi. Est-ce qu'il est capable de relever ce défi? On verra bien. Lui qui a jamais entraîné, rappelons-le, il n'a jamais entraîné une seule équipe, il a été que simplement entraîneur adjoint de Pep Guardiola pendant 3 saisons. On verra s'il est assez costaud psychologiquement déjà, et puis aussi dans ses choix tactiques, et pour faire progresser ses joueurs, cette équipe qui cette saison a vraiment été très moyenne.
Mais surtout qu'en termes de dynamique, les deux équipes, elles sont, même si Everton est moins bien classé qu'Arsenal, elles sont à l'opposé, parce que Everton allait chercher un match nul à Manchester, il me semble, last week-end. Donc ils font match nul contre Arsenal au terme d'un match qui était très très compliqué.
Ah oui, on critique souvent la Ligue 1, mais
très compliqué à regarder, celui-là
était pas beau. Le 0-0 Everton Arsenal.
Même au-delà de ça, au-delà des attitudes des joueurs, tu sens des joueurs qui sont inférieurs en termes de qualité par rapport à ce qu'il y a à Arsenal, mais au moins qui ont une envie tout autre.
Julien ?
Tout à fait. Non, mais c'est vrai, c'est exactement ça. Non, mais en plus, Damien a complètement raison. Il y a aussi ce manque de confiance, hein. Même des deux côtés, on l'a vu lors du 0-0 de samedi midi qui était assez horrible. Et c'est vrai que ça va être une des tâches les plus importantes pour les deux entraîneurs de rapporter cette confiance d'une manière ou d'une autre à des défenseurs qui défendent pas bien, à des milieux de terrain qui créent pas assez et qui protègent pas assez leur défense, et à des attaquants qui marquent pas non plus ou qui se créent pas assez d'occasions. Donc ça va vraiment être intéressant dès le 26, dès le Boxing Day pour tous les deux de voir ce qu'ils vont
faire. Alors le 26, ça sera notamment Arsenal, donc pour la première d'Arteta à Bournemouth, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Et puis du côté d'Everton, ça sera une réception de Burnley. Toi, le romantique que tu es, Jonathan, Arteta, Arsenal, je suis sûr que ça te plaît.
Bah oui, parce qu'il a joué au club. C'est un ancien joueur du club. Après, moi, je suis toujours un petit peu sceptique quand je vois un entraîneur un petit peu qui n'a jamais entraîné prendre un club d'une telle ampleur, d'une telle envergure. Ça a marché avec Zidane. Mais il y a aussi des fois où ça n'a pas forcément bien fonctionné, hein. On se rappelle de Thierry Henry, comment ça s'est passé. Donc le nom, ça suffit pas. Après, lui, je lui donne le crédit d'avoir passé quand même toutes ces années
quand
avec Guardiola.
Guardiola est arrivé à Barcelone.
Oui.
Il n'avait pas de carrière d'entraîneur.
Mais c'est ça l'assurance, c'est qu'il a passé tout ce temps avec Guardiola qui fait que voilà, tu peux être optimiste.
Maintenant, j'espère qu'il va pas vouloir faire du Guardiola, quoi, et qu'il va avoir sa propre identité. Voilà, Mikel Arteta, entraîneur numéro 1 avec sa propre philosophie.
De toute façon, avec l'effectif qu'il a, je suis pas sûr qu'il puisse faire du Guardiola.
Va falloir tout de suite qu'il se rende compte des qualités de son effectif.
Non, c'est vrai, mais aujourd'hui, dans sa conférence de presse, il a dit on lui a posé la question à un moment, est-ce que vous allez diriger cette équipe comme Guardiola dirige la sienne à Manchester City? Il a dit oui, c'est exactement ça. Ah ouais. Et d'ailleurs, on a vu déjà beaucoup de discipline, on a vu très peu de sourire à l'entraînement, où ça travaille déjà très dur, où il arrête beaucoup de jeux, où il parle beaucoup, où il replace beaucoup, ce qui change de Freddy Ljungberg déjà, bon, lui qui était pas prêt du tout, pour assumer ce rôle-là, mais aussi de Unai Emery lors des dernières semaines, qui lui, s'était déconnecté de plus en plus de son équipe, donc, ça va être intéressant.
Ljungberg qui reste d'ailleurs dans le staff d'Arsenal avec Arteta.
Il y a beaucoup de joueurs, anciens joueurs du PSG qui sont entraîneurs maintenant là, récents là. Arteta, Gajardo, Pochettino, Heinze. Ça fait beaucoup.
Cristobal.
Cristobal, c'est qui?
Je rigole. Donc il va y avoir le Boxing Day, on suivra évidemment sur RMC Sport et sur RMC, avec notamment donc ce Leicester Liverpool, 10 points d'écart, on le rappelle, entre les deux équipes, entre le deuxième qui reçoit le premier. Il y aura des beaux matchs, hein, Julien. Il y a Arsenal Manchester United notamment, deux équipes en difficulté. Ça sera après les fêtes, après le 31.
Ouais, Arsenal Chelsea aussi, hein. Arsenal Chelsea le 29.
Arsenal Chelsea, t'as raison, bien sûr, la 20e journée, ça aussi à suivre.
Voilà, Wolverhampton Man City qui va être intéressant à suivre.
Ouais,
aussi.
Wolverhampton qui a battu Manchester City. Ouais. Ouais, qui a battu Manchester City lors du match aller. Donc effectivement, on a des belles affiches, et puis elles sont souvent aussi chaque jour. Bon, le 26 il y aura beaucoup de matchs la même journée, mais après ils sont se suivent sur les jours, donc vous aurez très peu de jours sans football anglais. Donc si vous aimez le football anglais, vous allez vous régaler sur RMC Sport pendant toutes les fêtes.
Voilà, merci beaucoup Julien.
Ciao.
Merci à vous, les gars.
Bonne fête à toi et à très bientôt donc sur RMC évidemment, puisqu'on aura l'occasion de reparler de tous ces résultats de foot anglais. Dans un instant, à ne pas rater le quiz. Si vous voulez participer au quiz préparé par Arthur Robert, il nous a prévenu, ça va être très compliqué. C'est sur le début de saison 2019.
Il a vu le niveau des participants, il s'est dit voilà. Qu'ils mettent un curseur.
Je ne sais pas si tu as révisé, Jonathan, et non. Pour l'instant, il n'est pas sûr de vouloir participer.
Non, pas sûr. Non. Surtout c'est Arthur Robert qui l'a préparé.
Et puis les résultats du Survivor. Vous avez été très très bon, hein, sur le Survivor.
Pour une fois,
donc on vous donne les résultats dans un instant. Vous savez ce que c'est. Hein, il faut parier sur l'équipe qui gagne. Et pour l'instant, je vous le dis, il est 13 qualifiés sur les 13 engagés. Donc bravo, bien. On en parle dans un instant. Allez. Évidemment, avec le quiz sur RMC dans l'After. A tout de suite.
RMC jusqu'à minuit. L'After Foot.
This is the sound of an express service from Mercedes-Benz Cars. Two of our expert technicians working exclusively on your Mercedes-Benz while you sit back and enjoy a complimentary coffee on us. All it takes is as little as an hour of your day. The whole process is quick, easy, and hassle-free. Get an instant quote online and book a time that suits you. Simply search my service and book yours today. And before you know it, you'll be on your way. Subject to the service required at participating retailers only, terms and conditions apply.